Bonjour à tous et bienvenue pour ce Tech Jam numéro 18. C'est un Tech Jam cloud puisque vous le voyez à côté de moi, là me semble-t-il. Attends, je vérifie. Là ? Non, là !
Pour moi, c'est de l'autre côté, mais bon, après...
Bref, vous le voyez, il est là. C'est Anthony Monté de Cloud Mercato. Bonjour Anthony.
Bonjour Sébastien.
Comment tu vas ? C'est la première fois que je te pose la question.
Ah oui, tout à fait, ça va ultra bien. Et toi ?
Tu nous rappelles, alors on a l'honneur, le plaisir, l'avantage de te voir en vrai, parce qu'aujourd'hui on est comme la dernière fois sur un Tech Jam qui fait les deux, qui fait vidéo et son. On n'oubliera pas pour les podcasts, pour nos amis auditeurs, podcasteurs, je ne sais pas comment on dit, auditeurs, de décrire ce qu'on fait à l'écran. Et donc effectivement, Anthony Monté, tu es là, tu es le CEO de Cloud Mercato. Rappelle-nous ce que c'est en quelques mots.
Un cabinet de recherche et consulting fondé par moi-même, spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Donc, on a une grosse DB qui collecte plein de data à propos de tous les clouds. Et on fait joujou avec pour avoir d'autres data ou pour aider les consommateurs.
Oui, et justement, on va en voir de la data dans la suite du Tech Jam. Moi, je suis Sébastien Pastor, le fondateur de A Freelancer's World, un écosystème pour freelance de la tech, et aussi le créateur de ThumbUp.tech. C'est un outil qui va zénifier un petit peu le recrutement dans la tech. Si vous êtes intéressé, allez sur ThumbUp.tech pour nous laisser votre petit mail et être les premiers à utiliser ce magnifique produit. Regardez, sum up. Une fois n'est pas coutume, ce Tech Jam est complètement digital nomade, puisqu'on a Anthony qui est au Portugal.
Portugal. Non, Portugal.
Portugal. Et moi, je suis dans le sud-ouest de la France où les éléments sont en train de se déchaîner. J'espère que j'arriverai au bout de ce Tech Jam. Voilà, je crois qu'on a terminé sur l'intro. Aujourd'hui, on va parler, bien sûr, donc cloud, mais plus précisément d'object storage. Et encore plus précisément, de l'Object Storage High Performance. C'est un produit. Quoi ? C'est quoi ? C'est mon magnifique accent. Non, ben, je dis ça parce que Anthony semble se moquer de mon accent. C'est donc l'Object Storage High Performance qui est un produit de chez OVH que tu as testé récemment dans ton étude d'homme. C'est bien ça ?
Tout à fait. Tout à fait. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a OVH qui a sorti un nouvel object storage, une nouvelle gamme d'object storage. C'est intéressant à souligner que depuis toujours, ils ont un object storage qui est basé sur celui d'OpenStack, mais il y a à peu près un ou deux ans, ils ont acheté une société qui s'appelle OpenIO et qui est toujours d'ailleurs, parce qu'elle existe encore, spécialisée dans l'object storage propulsé par une IA. Donc, quelque part dans leur tambouille, ils ont une IA qui calcule les usages, les workloads, les flux, etc. et qui dit, là, vous devriez plus faire ça. Enfin, qui dit en interne, vous devriez plus faire ça pour augmenter les performances des utilisateurs. Et donc, ils sont venus vers moi pour me demander, hey, Anthony, est-ce que tu peux comparer notre object storage au reste du marché, enfin, les leaders de marché surtout, et deux, trois autres cloud providers? Et moi, je leur ai répondu, oui, je peux le faire, bien sûr. Et j'ai commencé à le faire, je l'ai fait pour eux en fait, en utilisant la test suite que j'ai déjà utilisée pour une étude publique qui s'appelle « L'état de l'art de l'object storage en Europe ». Donc tout ça pour vous dire que cette étude, elle est sponsorisée entre guillemets, c'est un client qui me le demande, c'est pas une étude qui sort de ma volonté pure de quand je me réveille le matin, mais la méthodologie est la même et je ne donne aucun avantage à OVH dans cette étude. Et donc, par aspect...
On compte sur toi.
Pardon ?
On compte sur toi. Pour eux, pour être complètement transparent.
Transparentus et intégritus.
Ah oui, et bien sûr.
C'est le modus operandus de Cloud Mercatus. Qu'est-ce que tu crois ? Et donc, j'ai testé cet object storage. Et réponse rapide, le high performance s'applique ici. Il y a quand même un petit contexte à avoir avant de rentrer dans les performances, c'est que dans l'object storage, dans le marché de l'object storage, au niveau des performances, pour moi qui ai déjà lancé des tests sur beaucoup de cloud providers, il y a deux gros groupes. Il y a les small and medium et il y a les hyperscalers. Ouais. Et les small and medium providers, bah, c'est tous les cloud providers que vous pouvez avoir en tête, DigitalOcean, Linode ou plein d'autres. Et il y a les hyperscalers, donc généralement les leaders de marché, AWS, Google, Azure, OVH aussi d'ailleurs. Et pourquoi je dis qu'il y a deux groupes ? C'est parce que en fait, les hyperscalers ont généralement un object storage qui est plus performant que les small and medium. Et quand je dis plus performant, ça peut être une fois et demie, deux fois et demie plus performant. Et c'est quelque chose qui se comprend. Parce que quand je suis un hyperscaler, j'ai plein de services et l'object storage, c'est la base du cloud. On peut penser que c'est les VM ou ce qu'on veut, mais pour moi, un object storage, c'est vraiment la base parce que c'est là qu'on stocke les datas les plus brutes. Et quand je suis un hyperscaler comme Azure et que j'ai une myriade de services, data warehouse, data analytics, data ceci, data cela, eh ben, l'object storage est quelque chose d'important en externe pour mes clients comme en interne pour moi et mes usages que j'offre à mes clients. Mmh. Et du coup, c'est la logique qui me permet de comprendre comme quoi les hyperscalers ont généralement des bonnes performances comparées aux autres. Donc moi, dans mon étude où il y a quasiment que des hyperscalers, OVH est très bon, malgré qu'en fait, il est avec le top 5, top tiers du marché, quoi. Et comme j'ai pas que du blabla, c'est une étude, eh ben je peux vous proposer les résultats en mode visible. Et c'est ce qu'on va faire. On va lancer un petit regard à l'étude qu'on a faite. Alors, je sais pas si tu peux voir mon écran, Sébastien.
Non, pas encore. Il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Je crains le pire. J'entends du tonnerre là, qui est.
Ouais, je me suis dit, soit t'as un avion de sas, soit t'as...
Oui, t'as des problèmes gastriques, soit... Alors non, en fait, j'ai peur. Par contre, je vois pas ton écran, c'est très étonnant.
Et hop, là, tu le vois.
Ah là là, tu m'as fait peur, dis donc, coquinou.
Eh oui,
je le vois.
Alors,
en évidence, peut-être peux-tu grandir un petit peu la police, histoire qu'on soit sûr que tout le monde voit bien.
Et pourtant, j'ai une police de bigleux sur mon... Enfin, j'ai un zoom de bigleux sur mon ordinateur.
D'accord, moi, c'était au cas où. Au cas où. Non, bah, c'est bien.
Pas de problème.
Ouais.
Et donc, j'ai testé les object storage avec ma suite plus ou moins standard. C'est pas exactement la même qu'il y a un, deux ans, parce que forcément, ça évolue. Il y a plein de choses que je rajoute, que je corrige, etc. etc. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est y a différents scénarios. Ces différents scénarios sont censés représenter différents aspects des performances. Donc, par exemple, on a le premier backup. On imagine bien qu'un backup, on a une VM qui envoie un fichier en direction de l'object storage. Donc, on est en train de tester, en fait, de l'upload. Pour tous mes tests, je teste en local. C'est-à-dire que quand j'ai du AWS, je suis AWS à Paris, je prends une VM à Paris, un object storage à Paris, et je fais la connexion entre les deux. Donc, on n'a pas de connexion inter-région, on n'a pas de connexion inter-cloud, à part pour Wasabi, qui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Wasabi est un object storage only cloud provider, donc ils n'ont qu'un object storage, ils n'ont pas de compute, et donc je suis obligé de prendre un provider tiers qui va me fournir une machine pour pouvoir tester le Wasabi. Mmh. Et du coup, ils auront un penalty dans tout ça, une baisse de performance par rapport aux autres, parce que pour tout le monde, je teste en local, à part pour Wasabi où ce n'est pas possible. Donc forcément, ils auront des... Enfin, pas forcément, mais en tout cas, ils auront des moins bonnes performances dans le cadre de notre test ici. Yes. Je vous invite, j'enverrai l'URL sur le chat, le clavardage, parce que l'étude, elle est publique, n'importe qui peut la consulter. Donc, au-delà de mes commentaires et de ce que je peux dire dessus, vous pouvez aller voir les choses par vous-même. Et donc, on va pas faire non plus tous les résultats de performance, on va pas tout regarder. Mais globalement, il y a deux, trois choses que je voulais vous montrer. C'est d'abord le test backup, c'est-à-dire on fait de l'upload pur. OVH est premier, tout simplement. Il délivre une performance à 520 MB par seconde, là où un AWS est à 215 et un Google est à 416, par exemple. J'aimerais quand même dire que mes tests sont des snapshots, c'est-à-dire que je n'ai pas pris l'object storage pendant 2 mois non-stop à télécharger et à me poser la question pendant 2 mois qu'est-ce que ça vaut. Non, c'est à un moment donné j'ai pris plein de VM, chacune singulièrement, et j'ai testé l'object storage. Donc, on peut se dire que les performances correspondent à peu près à la date de début juin. Mais je sais très bien que si là, je reteste AWS, dans mon test, j'ai du 215 MB par seconde, mais je sais très bien qu'on pourrait atteindre du 300 ou même descendre à du 160, du 175, du 180. Et ce que je vous donne là, c'est un snapshot de 1 à un moment donné. Ce n'est pas une valeur universelle qui correspond à AWS dans toutes ses régions, à n'importe quel moment, sur toute la planète, dans l'univers entier, jusqu'à la fin des temps. Non, c'est vraiment à un moment donné.
Petite question sur la méthode qui te permet de donner ces chiffres, c'est quoi? En fait, tu vas uploader en utilisant quel type de fichier et quel API?
Alors, type de fichier, il n'y a pas vraiment de type, c'est un binaire random, parce que en fait j'utilise un utilitaire qui s'appelle OS Benchmark, qui est créé par moi-même, et qui me permet de lancer tous les aspects de performance qu'il y a ici. Et pour ce qui est du backup, de l'upload ici, ce que je fais, c'est que j'initie un upload avec 32 threads simultanés. Parce que si tu ne le sais pas, dans l'object storage et dans le protocole S3, il y a quelque chose qui s'appelle le multipart upload. Le multipart upload, ça consiste à dire, quand tu vas envoyer un gros fichier, plutôt que de faire une seule connexion HTTP qui envoie le fichier et qui a de fortes chances de fail d'ailleurs, bah, tu divises le fichier en plein de parties et tu utilises plein de threads pour envoyer simultanément. Donc moi, j'ai un fichier de 5 gigas et je le divise parmi 32 threads. Et chacun des threads n'est pas censé envoyer une division de 32 gigas. Chacun des threads va envoyer 64 mégas en upload jusqu'à ce que ce soit fini en gros. Mais
D'accord.
ça, c'est assez important parce que pas grand monde fait du upload simple, hein, à part si tu as un petit fichier de 128 mégabytes ou quelque chose comme ça, mais tout le monde fait du multipart quand tu dois envoyer. Et
Ouais,
donc,
du coup, c'est un test qui va correspondre à la réalité de l'utilisation qu'on a de l'object storage.
exactement, exactement. Et
OK.
OVH est très bon sur cette partie-là. Et le deuxième test que je voulais vous montrer, c'est le Big Data, où cette fois-ci, on fait l'inverse, on download un gros fichier. Donc pareil, un fichier de 5 gigas, et on se dit, ah ben, je vais le downloader, en combien de temps je le download? Et là, Google est très bon. C'est une constante chez Google, ils ont tout le temps un super réseau, un super block storage. On atteint du 1,6 gigabits par seconde. Et j'ai déjà vu du 2 giga 2 chez Google, c'est pas non plus quelque chose de rare. Et on va enlever Google parce qu'ils sont trop bons, ils sont trop beaux. Et la star du jour, c'est OVH.
Yes.
Et en OVH, on voit qu'ils atteignent du 130 mégabytes par seconde. Et pour en avoir discuté avec eux, vu que bah, ils sont le sujet de cette étude, 130 mégabytes par seconde, c'est 1 gigabit par seconde. Et c'est ce qu'ils ont prévu pour chacune des connexions TCP qui est faite en direction de leur object storage. Donc là, en gros, on n'a pas saturé, mais on a atteint le maximum que OVH donne pour leur object storage. Et on est au-dessus de Azure, on est au-dessus de AWS, qui eux sont à respectivement à 100 et 65 pour mon relevé de performance.
Ouais, c'est quand même pas mal du tout, hein. Ils se frottent. Alors certes, ils sont moins bons que Google, mais ils sont meilleurs que quand même les deux autres gros.
Ouais.
C'est quand même pas mal.
Ah, tout à fait. Sachant que Google, c'est un alien. Vraiment, au niveau des performances, là, c'est incomparable avec qui que ce soit. Ils ont designé un truc qui est très très fort. Et je pense que les seuls qui peuvent vraiment concurrencer Google là, c'est les object storage décentralisés. Parce que ils shardent les choses en 80 parties réparties un peu partout sur la planète. Donc on peut tirer parti de beaucoup de shards. Et du coup, là, on est en train de parler juste de download. Mais comme pour l'upload, tout le monde ne fait pas de l'upload du download juste en faisant une simple requête HTTP. Il y a une RFC qui date de 1990 dans le HTTP qui permet de faire du multipart HTTP aussi. Alors, ce n'est pas du multipart, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais je me rappelle très bien que dans les années 90, j'avais mon gentil petit feu Internet Explorer Et j'avais un utilitaire à côté que quand je voulais télécharger une ROM Nintendo 64 de 16 mégabytes, eh ben, je pouvais utiliser mon utilitaire pour lancer 8 downloads en même temps et saturer mon modem 56K. Et ben là, on fait la même chose avec l'Object Storage. J'ai un test qui s'appelle Big Data Multipart, où bah, on utilise 10 connexions simultanées pour pouvoir télécharger les fichiers plutôt que la connexion unique qu'on utilisait dans le scénario tout à l'heure. Bon, Google est toujours ultra fort, hein, ils ont toujours la meilleure bande passante pour téléverser depuis leur object storage. On est à du 2,7 Go quand même pour Google. On va se masquer les yeux et dire que Google n'existe pas. Et OVH est très bon. Encore une fois,
Yes.
on atteint du 830 MB par seconde. Donc, globalement, on avait un thread, on passe à 10 threads, et on a réussi à avoir à peu près du x8, x7 au niveau performance. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Chez les autres aussi, on est autour de 500, 550 MB par seconde, mais OVH est toujours très bon au niveau performance. Et voilà, on a fait du upload, du download. Il y a beaucoup d'autres scénarios qui utilisent notamment, qui sont pas focus sur le upload ni le download, mais plutôt sur le nombre de requêtes par seconde. Mais on va pas tout regarder. J'aimerais seulement vous montrer la dernière partie, qui est celle du pricing, où en fait j'ai fait un petit simulateur de prix où vous définissez les trois composantes que vous allez utiliser dans l'object storage, parce que ce que il y a un biais. Qui est assez répandu dans l'object storage, qui est celui que le prix d'un storage correspond au le prix d'un object storage correspond au prix du storage. Alors, basiquement, c'est un peu vrai, mais en fait, généralement, le prix du trafic sortant en direction d'Internet est plus cher que le storage. Donc, quand ici, par exemple, on va faire une simulation à peu près à 5 téra stockés sur le web. Ici, vous pouvez voir les prix. Donc, on a OVH qui est à peu près à 130 $, on a AWS qui est à 120 $, on a Azure qui descend à 96 $, on a Wasabi qui est juste à 24 $. Donc, voilà, on a des prix pour du stockage. Mais si maintenant je dis qu'en plus de stocker 5 gigas de données, j'envoie par mois 5 excusez-moi, on n'est pas à 5 gigas, on est à 5 téra. Disons qu'en plus j'envoie 5 terras sur le web. Bah, là, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais concrètement, pour la plupart des cloud providers, stocker 5 gigas, envoyer 5 gigas sur le web, l'envoi de 5 terras, excusez-moi, va me coûter à peu près 4 à 5 fois plus cher que juste le stockage. Donc vraiment, faut prendre en compte cette notion comme quoi, dans l'object storage, le trafic coûte, et il coûte cher même, en fait. Et pareillement, dans l'object storage, les cloud providers facturent les requests. C'est souvent en termes de je te fais payer 4 centimes quand je reçois 10 000 requêtes sur mon object storage. 4 centimes, 3 centimes, ça peut être plus cher si c'est des requêtes post ou des requêtes delete, etc. Mais ce qu'on voit ici, c'est que si je reçois 48 millions de requests ce mois-ci, bah chez AWS, ça va me coûter 20 $, chez Azure 20 $, chez Google 20 $. Par contre, chez OVH, ça va être gratuit, chez Wasabi, ça va être gratuit. Et donc,
D'accord, ils font pas payer les requêtes à partir d'un certain montant?
non, ils ne font pas du tout payer les requêtes chez Wasabi,
D'accord, d'accord. Les
chez
mêmes
OVH.
OVH, du
Ouais.
coup.
Tout à fait. Les
Okay.
requêtes, c'est un truc d'hyperscaler, entre guillemets, greedy. Il n'y a vraiment que les gros hyperscalers qui se permettent de faire payer les requêtes. Sinon, la grosse masse du marché ne te parle pas de request. Et
D'accord.
donc, là, ce qui est souligné, c'est que, comme je disais, le trafic est 4 à 5 fois plus cher que le storage. Sauf que OVH, ils ont voulu se démarquer, ou ils ont dit qu'ils proposent un storage qui est de bonne qualité, un tout petit peu plus cher au niveau du stockage, puisqu'on voyait tout à l'heure que on a peut-être au niveau du stockage, on a peut-être 5% en plus de prix juste pour stocker. Mais par contre, au niveau du trafic, bah là, on est juste bah ouais, à peu près 8 à 9 fois moins cher que les autres au niveau du trafic. là où un AWS va me dire tu vas payer 440 $ pour envoyer ce mois-ci sur le web, OVH va me dire tu payes 50 $. Donc on a une différence qui est juste énorme et c'est une stratégie qu'ils ont voulu prendre pour dire ah bah oui, on a un object storage de bonne performance qui est un petit peu cher au niveau storage, mais au niveau trafic, on est incomparable par rapport aux autres. Et la comparaison qui peut se faire, c'est avec Wasabi, qui est très 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 peu cher. Wasabi, c'est du 1 $, du 7 $ pour stocker 1 TB et du trafic illimité gratuit. Ne te pose pas de questions. Et aussi des requêtes gratuites, bien sûr. Donc, quand ils ont vu ça, ils étaient assez contents. Je pense qu'ils s'en doutaient chez OVH. Mais de voir la comparaison de manière visuelle, telle que je suis en train de la montrer là sur un navigateur web, c'est assez intéressant. Et surtout de pouvoir se dire, on va tester différents scénarios et de voir qu'est-ce que ça donne. Et surtout, moi, de mon côté, je suis assez content parce que je suis resté faire. J'ai donné les chiffres, j'ai donné un simulateur de coûts. Et bah, ça montre qu'ils sont bons, tout simplement.
Ouais, donc si on devait résumer, ton étude, c'est qu'au final, OVH, sur ce produit-là, il est aussi bon que les autres et au niveau pricing, il est quand même bien moindre, enfin tout confondu, c'est ça? Ou
Ouais, si on prend un pricing global avec du storage, du trafic, des requests, ils sont bien moins chers que les autres.
D'accord.
Et au-delà de ça, j'aimerais aussi rajouter que les autres object storage sont chers et Google, qui est très bon au niveau download, pas au niveau cloud, mais au niveau download, Google qui est très bon, bah, ils le font sentir ici au niveau prix du trafic.
Ouais, d'accord. Donc il n'y a rien qui nous empêche d'aller chez OVH. Au contraire, ils sont français et les perfs sont là. Et le prix, en fait, quand tu scindes le prix stockage et trafic, bah, en fait, c'est avant tout pour bien voir où passe l'argent. Mais au final, c'est indissociable, quoi. Quand on doit faire ses calculs, si on veut récupérer nos données qui sont stockées, on doit avoir du trafic et inversement, si on veut pouvoir utiliser via le réseau, on doit les stocker. Donc, au final, c'est moins cher, quoi. C'est ça.
Exact, exact. Sachant que si tu as des données que tu ne veux pas stocker, enfin qui ne transitent pas plus que ça, il y a d'autres solutions chez les cloud providers. Et pour moi, Wasabi rentre aussi dans ce cadre, dans ce workload de fichiers qui ne bougent pas forcément beaucoup. Puisque quand on regarde les performances ici, on se dit Wasabi sont lents, mais on paye pas cher. Du coup, ça correspond assez bien à du cold. Mais on va revenir sur Wasabi après dans notre discussion. Et Google, oui, fait payer le trafic. Clairement, on a un trafic de très bonne qualité qu'on paye.
Et du coup, ouais, alors ça fait plusieurs fois que tu nous parles de Wasabi, on sent un petit peu qu'il s'est passé un truc avec Wasabi. Alors attention, petit disclaimer, on ne parle pas de cette petite sauce verte qui pique.
Ah
Non, je crois pas. On parle de l'object storage chez Wasabi. Et Wasabi sont positionnés dans un mode super low cost. On n'est pas cher.
bon.
Mais par contre, ce que tu as découvert, c'est que ben, la perf, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Et tu as un petit mea culpa à leur faire ou qui n'en est pas un. Vas-y, je te laisse.
Ouais, j'ai un mea culpa. C'est pas un mea culpa, c'est à peu près la même chose, c'est un peu inversé. Enfin bref. Bon, alors, durant l'étude d'Object Storage avec OVH, et durant toutes mes précédentes études d'ailleurs avec les Object Storage, vu que Wasabi est le cost killer du marché, forcément je les inclus dans mes études. Et dans tous mes tests que j'ai fait, Wasabi a des pas super bonnes performances, pour pas dire mauvais. Pour ce qui est de l'upload, pour ce qui est du download, ils sont bien en dessous de la masse et bien en dessous des bien 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 en dessous des hyperscalers. Pour ce qui est des tests en request par seconde, j'ai des problèmes d'erreur de consultation de fichiers, c'est-à-dire que quand je commence à mettre trop de clients sur un même fichier, eh ben l'object storage peut me dire, calme-toi, tu demandes trop de choses en même temps. Quand j'ai fini mon étude sur OVH, j'ai fait une publication pour dire, hey, regardez, il y a une étude qui peut vous intéresser, satisfaire votre curiosité. Wasabi a voulu aussi satisfaire sa curiosité et ils ont vu qu'ils avaient des mauvaises performances. Donc, sont venus vers moi pour me dire, hey, Anthony, pourquoi tu dis qu'on est nul? Moi, je leur ai dit, je dis pas que vous êtes nul, je dis juste que j'ai capturé des performances d'un endroit à un autre, à un instant T, et voici les performances que j'ai eues. Du coup, ils me demandent d'où tu as fait ça. Je leur ai dit Open Telecom Cloud depuis Amsterdam, en testant le Wasabi à Amsterdam. Amsterdam, en Europe, au niveau data center et Internet, c'est une plaque tournante avec une plateforme avec beaucoup de cloud, beaucoup d'entreprises, beaucoup de réseaux. Donc, j'étais assez confiant sur le fait que Open Telecom Cloud, qui est un hyperscaler, est censé avoir un bon accès à Wasabi. Et du coup, eux, ils me disent, oui, Anthony, est-ce que tu peux tester plutôt avec notre Wasabi de Paris, notre Object Storage de Paris? Je pense qu'on aura des meilleures performances. Je leur dis, bien sûr, je vais le faire. Je teste avec cette fois-ci Orange Business Service, Orange Cloud Services depuis Paris, en direction de Wasabi Paris. J'ai des meilleures performances, mais pas délirantes non plus. Pour avoir ces performances, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais un outil que j'ai fait qui s'appelle OS Benchmark. Et dans OS Benchmark, il y a deux leviers qui me permettent un petit peu de contrôler les performances. Ces leviers-là, c'est le Connect Timeout et le Read Timeout. Donc, le Connect Timeout, c'est du TCP. Pour ceux qui voient un petit peu comment fonctionne TCP, voilà, la connexion se fait, le client envoie un TCP, il reçoit un TCP SYN, il envoie un TCP SYN ACK et renvoie un ACK pour dire que tout va bien. Et là, on peut commencer à faire la connexion HTTP. Et le deuxième paramètre, c'est le read timeout. Et cette fois-ci, la connexion HTTP a été faite. Vous dites, donne-moi, le client dit, donne-moi ce fichier à l'object storage. Et l'object storage prend un petit peu trop de temps ou pas à envoyer le fichier. Et s'il prend trop de temps, on déclare un connection timeout. La chose à se dire, c'est que moi, j'ai fait un test avec l'object storage high performance. Et que donc, je m'attends à un niveau de performance quand je teste les object storage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé les timeouts à 5 secondes pour le connect, à 15 secondes pour le read. Sachant que si vous allez sur un site internet et que vous attendez 5 secondes pour avoir la page, vous allez craquer, vous allez appeler tout le monde, la police, le SAMU, votre mère, etc. Parce que 5 secondes, c'est beaucoup trop long. 2 secondes, c'est long. 500 millisecondes, c'est bien. 300 millisecondes, c'est super cool. 200 millisecondes, c'est pas le parfaitisme, mais on n'en est pas loin. Moi, j'ai mis un timeout.
Ça veut dire déjà que tu as un timeout super large, quoi. Enfin, pour
Quand même,
tester
j'ai
le.
mis un timeout assez large quand même.
Ouais.
Sachant qu'un timeout, pour ceux qui n'ont pas forcément la logique, c'est le fait d'attendre et au bout d'un certain temps de se dire, bon, c'est mort, ça ne marchera pas. J'ai donc mis un timeout qui est assez large, mais je ne mets pas de retry, c'est-à-dire que si la connexion pète, mon action a pété et je n'essaie pas de la recommencer. Ce que ne fait pas un navigateur web. Un navigateur web, quand il commence une connexion, que le serveur pète ou quoi que ce soit, il peut retenter la connexion parce qu'il sait que son utilisateur va faire un actualisé pour retenter la chose de toute façon. J'ai ces deux paramètres, connection timeout, read timeout. Ce que je fais moi, c'est que avec Wasabi, je vois que j'ai beaucoup de connexions timeout dans ce que je fais, et j'ai beaucoup aussi de read timeout, j'ai les deux. Donc j'augmente ces deux valeurs, ce qui me permettra d'avoir au moins une valeur retournée par Wasabi, parce que je ne veux pas me permettre de faire des retries dans mes connexions. Et le problème avec cette logique-là, c'est que si on doit faire une analogie, par exemple, je vais au restaurant, je me pose sur la table, et là, il y a un serveur qui vient me voir pour me demander qu'est-ce que je veux. Ça, on peut faire une analogie, dire que c'est un connection, un TCP, je débarque et je commence à faire une connexion avec le restaurant. Donc, c'est du TCP. Si je débarque dans le restaurant et qu'il n'y a personne qui vient me parler, bah, au bout de X temps, je vais faire un time-out et je vais me casser du restaurant parce que je vais dire, je vais faire mon bon français et dire que c'est inadmissible d'attendre 60 secondes pour avoir un serveur et je vais me casser autre part. Et si je dois faire une analogie aussi pour le read time-out, c'est bon, bah, le serveur il est venu, je lui ai dit je veux une omelette, le gars est parti et je n'ai jamais revenu en fait. Il n'est jamais revenu en fait. Donc c'est un peu l'analogie. Et là, moi, avec mes paramètres, mes leviers de read timeout et connect timeout que je peux augmenter et descendre, ce que je vais faire pour Wasabi, c'est que je vais augmenter mes timeouts. Je suis monté jusqu'à, je crois, 15 secondes de connect timeout et plus de 60 secondes de read timeout. Mais le problème de cette logique, c'est quoi? C'est que quand j'accepte que le serveur prenne plus longtemps pour venir me parler ou pour me ramener mon plat, ah bah, concrètement, moi, ça me prend plus de temps pour pouvoir manger. Et donc, in fine, si on doit revenir sur des machines et des ordinateurs, in fine, ma bande passante sera plus petite, enfin, ma vitesse de connexion sera plus petite, parce qu'on prendra plus de temps à avoir ces valeurs. Et donc, plutôt que juste de faire des choses abstraites comme ça et juste de parler, moi, quand j'ai fait mes tests, je suis allé sur les machines, j'ai fait du monitoring actif pour voir bah, quels étaient les débits que je pouvais avoir sur ma machine. Et quand j'étais avec Orange à Paris, et je testais le Amsterdam de Object Storage Amsterdam de Wasabi, je voyais en fait que dans ma connexion, des fois, j'atteignais du 300, du 400 mégas bytes par seconde. Mais le problème, c'est que, disons que j'envoie un fichier de 10 gigas sur Wasabi. Au bout de 5 secondes, bah, Wasabi va me faire un read timeout. C'est-à-dire que j'envoie, tout va bien. Et à un moment donné, il va avoir un petit bug. Et si j'ai mis un timeout à 5 secondes, bah, ce petit bug, s'il dure plus de 5 secondes, bah, le test est foutu parce que Wasabi, je vais considérer que Wasabi n'est pas capable de me donner, d'accepter mes requêtes
Dans la partie.
avec le niveau de performance que j'aurais demandé.
Ouais.
Alors, si j'augmente mon timeout, ce que je vais voir moi dans mon monitoring, c'est que, ok, ça bombarde, on est à 400 mégabytes par seconde, tout va bien, c'est beau, c'est bien. Et à un moment donné, ça va couper, comme je disais avant. Sauf que si j'ai un timeout à 20 secondes, bah, je serai capable d'attendre 20 secondes et poum, il va continuer à envoyer. Et donc, Wasabi, moi, ce que ça me donne comme indication d'avoir fait ce monitoring actif, c'est qu'en fait, Wasabi est capable d'atteindre des bonnes performances. Puisque dans mon download, j'ai réussi à avoir du 400 à un moment donné. Le problème, en fait, c'est toute l'opération de j'envoie un fichier de 10 gigas, bah, je risque d'avoir des coupures. Je peux en avoir une, je peux en avoir deux, je peux avoir une coupure de 5 secondes, je peux avoir une coupure de 15 secondes. Et c'est ça qui donne in fine les mauvaises performances que moi j'affiche dans mes études, c'est parce que ils ont des timeouts. Et du coup, hier soir, je me grattais la tête et je me suis dit, bon, attends, je vais aller regarder Wasabi depuis d'autres, sachant que bah, il n'y a pas que Open Cloud Telecom et Orange. Et je fais des tests depuis plusieurs cloud providers juste en upload parce que bon, il y a plein de tests, plein d'aspects de performance qu'on pourrait faire. Alors, chez Open Telecom Cloud, on a déjà vu, Wasabi était pas super. J'ai testé chez AWS, bah, j'étais plus rapide que S3. Tout simplement. J'ai testé chez Equinix, former packet, bah, c'est pas très rapide. J'ai testé toutes les régions AWS en Europe, c'était plus rapide que S3. J'ai testé Orange, donc c'était pas très rapide. J'ai testé Vultr en Europe, c'était rapide. Donc en fait, je rajouterai un bémol à la première phrase que j'ai sortie quand j'ai commencé à parler des object storage d'OVH, comme quoi là j'ai testé les choses à un instant T, mais surtout à un endroit E, si on doit l'appeler comme ça. Et les performances varient hautement en fonction de quand et de où tu testes. Bien sûr, il y a le comment, mais moi la méthodologie, je la donne à tout le monde. Mais après, il y a le d'où tu testes. Et ce qu'on peut voir, c'est que d'AWS, bah, je suis super rapide. D'un autre cloud qui est pour moi est de très bonne qualité, les deux clouds, Open Telecom Cloud et Orange, pour moi, c'est des clouds de bonne qualité. Je fais beaucoup de tests sur eux et je doute pas du tout de leur performance. Mais en tout cas, la connexion qu'ils ont entre eux et Wasabi semble mauvaise. Et bah, tous ces les tests de avec plein d'objets de compute, je les ai fait hier, mais en fait, pour rentrer dans les détails, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'utilise des features que j'ai implémentées dans OS Benchmark, où en fait j'ai implémenté du ping, du TCP ping, du traceroute et du TCP traceroute. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est de regarder la latence entre bah, les différents objets storage et les différents cloud providers. Mais je pense que la latence ne va pas me dire grand-chose. Ce qui est le plus intéressant, ce serait plutôt de regarder le nombre de sauts et le temps qu'il y a sur ces sauts entre les Open Telecom Cloud, par exemple, et Wasabi. Si par exemple, il me dit pour aller de OTC à Wasabi, tu fais 32 sauts, bah, il y a un problème. On est de Amsterdam à Amsterdam. Je ne suis pas censé faire autant de sauts. En plus, comme je disais, Amsterdam, c'est une plaque tournante pour le réseau. Donc, normalement, tout est relativement prêt, quoi.
Ouais. Après, c'est bien le gros problème pour tester des solutions comme Wasabi, c'est qu'ils ont pas l'intégralité, ils ont pas la main sur l'intégralité de leur solution. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le compute, alors que des gens comme OVH, eh bien, ils maîtrisent absolument tout. Donc, quand tu testes OVH, bah, tu testes vraiment leur produit. Quand tu testes Wasabi, on comprend, c'est que la complexité, c'est de savoir où est-ce que ça merde. Et eux, de leur côté, eh bien, ils disent, bah, non, on a des perfs. Il faut tester de là ou là ou là, mais on comprend que c'est pas évident non plus de retrouver les mêmes perfs, ce qui veut dire qu'en fait ça donne pas envie vraiment d'utiliser le produit Wasabi en lui-même, parce que tu as de grandes chances de, suivant ton provider chez qui tu es, tu as de grandes chances d'avoir des perfs de caca prout, hein, si je peux me permettre.
Bah, tout à fait. Après, on pourrait se dire qu'il suffit d'une étude préliminaire, d'aller voir Claude Mercato et dire, hey, Claude Mercato, Anthony, est-ce que tu sais, en fait, moi, je compte aller chez DigitalOcean. Ça vaut quoi DigitalOcean plus Wasabi? Tu
Ouais.
vois, si tu poses cette question-là, peut-être que tu vas pas être lésé plus tard. Mais en tout cas, oui, tu peux pas te dire, ah, je vais utiliser Wasabi sans te poser de questions. Il y a des cloud
Ouais.
providers chez qui ça ne marche pas, tout simplement.
Et il y en a d'autres de providers comme Wasabi, enfin, qui sont sur le même segment et qui ouais.
Ouais, y a Backblaze. Backblaze, pareillement, c'est comme Wasabi, hein. C'était il y a 2 ans quand j'ai fait ma première étude, je les ai contactés et ils m'ont pas donné tellement de réponses sur les performances. Moi, je leur disais, j'ai pas des super perfs et je veux que j'aimerais savoir si j'utilise bien votre object storage, comment je dois vous évangéliser quand je parle de vous,
Ouais.
etc. Et ils m'ont pas donné de réponse là-dessus en 2 ans et Backblaze m'a fait la même chose. Backblaze, c'est le même credo que Wasabi, sauf que vous payez le trafic, mais très peu cher le trafic. Et pareil, les performances sont pas super. Depuis tous les, par contre, Backblaze, j'ai pas encore trouvé de provider où les perfs sont vraiment bonnes.
D'accord.
Par
Et du coup,
contre, ouais.
il s'adresse à quel type de client, à quel profil?
Moi, je me dis que c'est fait pour de l'archivage.
D'accord.
C'est-à-dire que chez AWS, par exemple, il y a 2 options pour l'archivage, entre guillemets. Vraiment, je grossis la chose, hein, il y en a plus que ça. Mais il y a le storage cold, ou cool, plutôt, je dirais, où là, c'est du réfrigérateur. Vous avez des fichiers que vous utilisez pas souvent. Et vu que vous les utilisez pas souvent, excuse-moi, ils vont vous proposer une tarification meilleure que le standard. Et après, il y a le cold, complètement cold, qui est là, bah, c'est le freezer, quoi, c'est le congélateur. Et là, par contre, vos fichiers, ils sont sur des disques durs éteints. Ce qui fait que ça coûte moins cher pour tout le monde, ça coûte pas d'électricité. Et quand toi, tu vas avoir besoin de tes fichiers, AWS va mettre tes fichiers au micro-ondes, le disque dur au micro-ondes pour le chauffer, et va t'envoyer les datas. Mais du coup, tu vas avoir un surplus de coûts quand tu veux tes fichiers. Pour stocker le fichier, ça va être super pas cher, mais il y aura un surcoût quand tu veux stocker. Et à l'inverse, Wasabi et Backblaze, ils utilisent une API S3 standard. Il n'y a pas de cold, il n'y a pas de hot, il n'y a pas de cool. Et c'est au même prix que le cold chez AWS. Et pourtant, tu n'as pas à réchauffer le fichier. Sachant que généralement les offres de type glacier, donc les congélateurs de données, quand tu demandes un fichier, généralement il faut que tu attendes entre 2, 6, 12 heures pour avoir ton fichier. Donc c'est vraiment un usage d'archivage. Par exemple, quand tu as des obligations légales de garder des documents quelque part pendant au moins 5 ou 10 ans, ce qui peut arriver avec les impôts, avec plein de choses, bah, tu les mets sur du cold. Et quand l'inspecteur des impôts t'enverra un rendez-vous à la date X, tu auras le temps de pouvoir chauffer tes fichiers, de les récupérer et de payer un surplus. Alors que chez Wasabi, tu n'as pas à chauffer, tu n'as pas de surplus, tu n'as rien. Tes fichiers sont stockés, tu les récupères avec n'importe quel client S3 compatible.
D'accord. Donc, ok. Donc, toi, c'est, tu dis Backblaze, Wasabi, ok, mais pour de l'archivage et sur lequel on peut se dire, bon, on va attendre un peu que le timeout se termine. Ouais.
Mais bah, excuse-moi, j'allais dire que c'est vrai que c'est vrai qu'on peut les utiliser hein, pour les autres usages. Je disais que Wasabi avait, j'avais des meilleures perfs chez Wasabi. Quand je suis chez AWS que quand je suis chez AWS et que j'utilise S3. Mais par contre, si on a des écarts entre les cloud providers sur les performances, on peut avoir aussi des énormes écarts sur les ISP, sur les connexions personnelles, les connexions personnelles Internet. Ça se trouve, moi, je vais chez Wasabi avec mon PC portable et ma connexion de ma maison. Ça va être tout pourri. Alors que ça se trouve, toi, ça va être bien.
Ouais. Ouais, ça n'inspire pas confiance dans ce sens-là.
Voilà, et ça, personne peut vraiment... Enfin, moi, j'ai les outils pour le vérifier, mais personne ne va aller vérifier au détail que chacun, chez lui, a une bonne connexion Internet en direction de Wasabi.
Mais est-ce que, du coup, tu as des SLA qui te permettent de t'assurer que ton truc, il est redondé, il est sauvegardé et que ça n'a pas brûlé ? Enfin, est-ce qu'ils ont ce niveau... les niveaux que pour nous, c'est tout ce qui est glacier, etc.
Oui, je travaille sur les SLA et globalement dans les cloud providers, les object storage, les SLA, c'est basiquement durability, availability. Combien de neufs après la virgule tu me promets que mon fichier sera disponible sur le web et combien de neufs après la virgule tu me promets que tu es capable de garder l'intégrité de mon fichier sur des millénaires. Enfin, sur une année en l'occurrence, pour ces neufs-là. Donc, ces scores-là, je les ai, ils sont pas tellement clairs et tellement déclarés pour tous les cloud providers. Ouais. Mais dis-toi que quand on a 7, 9 après la virgule, il me semble que ça veut dire que ton fichier sera pas disponible pendant 12 minutes ou quelque chose comme ça par an. Ouais.
Et de tête, chez Wasabi, c'est correct ou c'est, on s'attend à quoi?
Je te le dis honnêtement, pour moi, ça veut rien dire. Correct, pas correct. C'est des chiffres. Et lorsque c'est pas disponible, ils vont pas te le dire. Et je pense que il y a pas mal de temps où c'est pas disponible. Je te dis ça parce que je regarde un petit peu les object storage un peu partout. Et hors des hyperscalers, les hyperscalers, ils sont généralement de très bonne facture. Mais hors des hyperscalers, il y a plein de cloud providers qui vous disent, moi j'ai plein de neufs après la virgule. Et pourtant, ils ont des downtime de 2 jours.
Ouais, de toute façon, la seule, on sait bien que la seule façon de se prémunir de gros souci, c'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier.
Exactement. Et on peut dire, j'ai une durabilité de fou. Si demain il y a un incendie, il n'y a que le multi-région et le multi-AZ qui t'aura sauvé la mise. Hein.
Yes.
Ou le multi-cloud ou le multi ce que tu veux, en fait.
Ok, allez, on quitte un petit peu les object storage.
Ouais.
Parce que mince, on sait bien que c'est ta passion, mais bon, quand même, faut arrêter. Et on va aller vers un cloud service provider qui s'est découvert et qui s'appelle. Alors, quand tu m'as dit le nom, moi j'ai trouvé ça naze. Puisque évidemment, il s'agit de NAS.io et ça s'écrit NAAS.io.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Ils ont pensé.
Alors, pour donner l'histoire un peu, c'est moi, il est 3h du matin, je suis en train de travailler sur ma plateforme et tout.
Oh putain, ça va être long.
Et je me dis, il faudrait un truc pour que les gens ils puissent jouer avec mes data directement au web. Et je réfléchis 2 minutes, je me dis que un des standards pour jouer avec des data en web, c'est souvent les notebooks Python. Donc, je ne sais pas si...
Ouais.
Un notebook Python. Rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ouais. On a le langage de programmation Python. Ce langage de programmation, c'est un langage interprété, donc il a un interpréteur, c'est-à-dire un bout de code à qui on donne les lignes de code Python et il va les lancer. Et vu qu'il est un interpréteur, bah, en fait, ils ont laissé les humains utiliser cet interpréteur. Donc, si vous allez dans votre shell et que vous tapez Python, bah, vous aurez un interpréteur Python dans lequel vous pouvez taper bah, des lignes de commande Python et il va les exécuter en live. L'intérêt, c'est que quand vous voyez des lignes n'importe où, bah, vous pouvez les copier et les coller dans votre interpréteur et vous aurez le résultat en direct live de ce qui se passe plutôt qu'estimer qu'est-ce que va faire cette ligne de commande enfin, ces lignes dans l'application. Et du coup, il y a une dizaine d'années, je crois, il y a le IPython qui a été créé. IPython, c'est un interpréteur Python particulier. Si vous utilisez l'interpréteur de base de Python, oubliez-le et utilisez IPython parce qu'il a tellement d'avantages, tellement de trucs en plus que c'est la magie. Et au-dessus de cet IPython, il y a quelque chose qui a été inventé qui s'appelle les notebooks Python, les Jupyter Notebooks, et en gros, c'est une manière de créer une documentation. Quand vous voulez partager ce qu'on appelle en anglais des snippets, c'est-à-dire des lignes de code avec l'entrée et la sortie, c'est-à-dire ce que vous écrivez et ce que vous répond la machine, bah, vous pouvez les écrire dans un notebook et partager ce notebook avec les gens. Basiquement, Jupyter Notebook, c'est simple, hein. C'est une application web qui permet d'écrire des notebooks. Donc, vous lancez l'application web, vous utilisez votre navigateur web pour aller la consulter, et à partir de là, bah, vous avez un simili interpréteur Python, vous écrivez une ligne de commande, vous appuyez sur exécuter, ça exécute la ligne, et ça écrit l'output. Et tout ça dans un fichier. Et disons que demain, j'ai envie de te dire, hey, Sébastien, regarde ce que j'ai fait, bah, je
Oui,
t'envoie
ça
mon fichier.
m'intéresse.
Et tu peux regarder ce que j'ai fait en regardant le fichier IPython. Et si tu as installé le Jupyter Notebook IPython sur ta machine, bah, tu peux même réexécuter le fichier. Et ça, bah, dans le monde de la data science, c'est ultra pratique parce que on peut, avec contrairement au l'interpréteur qui est dans un shell, dans les notebooks IPython, tu peux afficher des graphiques, afficher des dessins. Et donc, pour un data scientist, c'est toujours intéressant de dire, ah, j'ai un ensemble de data, voici son histogramme, voici son scattering, voici une boîte à moustache avec mes data. Voilà, enfin, il y a moyen d'afficher les choses. Et du coup, je vous ai parlé de Python, d'IPython, du Jupyter Notebook. Et là, on en revient à la dernière step, qui est celle de, il y a des cloud providers qui hébergent des notebooks. Donc, basiquement, on pourrait se dire, quand on va sur GitHub, et qui a un fichier IPYNB, donc IPython Notebook. Quand on clique dessus sur GitHub sera capable de l'interpréter. Mais par contre, on ne pourra pas le modifier. Et si on va chez les cloud providers, il y a AWS, il y a Google, il y a Azure qui fait ça. Même OVH a une solution de hosting de notebook. On peut lancer ces fichiers notebook en ligne et les modifier et faire tout ce qu'on veut dessus. Donc c'est assez utile puisqu'on n'a pas à travailler en solo sur la machine, on n'a pas sur notre machine, on n'a pas à installer tous les softwares. Tout est disponible en ligne, tout se passe avec un navigateur web, donc c'est très intéressant. Et du coup, donc on a NAS, ce cloud provider que j'ai découvert en cherchant quelles sont les solutions de notebook en ligne. Et sur le début, on peut se dire, bon, bah voilà, ils font IPython, ils font notebook as a service, plein de cloud providers le font déjà. Mais en vrai, c'est pas juste une société qui fait notebook as a service. Déjà, pour commencer, leur produit est open source. Donc, vous pouvez l'hoster de chez vous, c'est-à-dire que ils ont une couche au-dessus de juste le notebook qui permet de gérer un peu plus que ça et je pense aussi de gérer de manière sécurisée. Parce que moi, c'était aussi l'un de mes problèmes. Je voulais pas installer un Jupyter Notebook directement sur mes machines et dire aux gens, ah bah oui, vous pouvez jouer avec mes data sur ma machine et si vous voulez, vous lancez des sudo apt-get install et vous faites tout ce que vous voulez sur ma machine. Je ne voulais pas ça. Et c'est pour ça que j'ai cherché ce genre de choses. Et donc, je me suis dit, allez, on ouvre un compte, j'ouvre un compte, je donne mes identifiants, mon email, tout ça. Et ils me disent, tu vas recevoir un mail dans 2 à 5 minutes. Et je me dis que c'est pas possible 2 à 5 minutes. Il est 3 heures du matin, je devrais l'avoir reçu tout de suite. Donc, je vais dans ma boîte mail et il est là. Et j'ai trouvé ça beau. Parce que quand on dit 2 minutes et que ça dure 3 secondes, eh ben, c'est beau. Voilà, j'aime ça. Et donc, j'ouvre ce mail et bah, en fait, il y avait mon password dedans écrit. password supposé temporaire que je n'ai
Ah oui, mais c'est temporaire.
Que je n'ai toujours pas changé. c'est un petit peu dommage de partager le password, mais bon, c'est une start-up, ça va évoluer, tout ça, la sécurité, voilà. Du coup, vu que je dois copier-coller ce password et qu'il est 3h du matin, moi j'ai la flemme, et je préfère aller lire leur documentation. Et dans leur documentation, j'ai lu quelque chose déjà qui était très intéressant. Ils disent que l'histoire de tout ça, c'est que eux, c'est des gars qui utilisaient de manière intensive Excel. Donc, pour ceux qui connaissent pas Excel, non, je rigole, tout le monde connaît Excel. c'est des gars qui utilisaient Excel et qui ont appris à utiliser Python, et notamment Panda et NumPy. Donc là, je pense que les gens connaissent pas tous, mais Panda et NumPy, c'est vraiment les solutions pour faire, pour manipuler les chiffres, faire de la statistique et plus encore en Python. Et notamment, pour ceux qui viennent de Excel, Panda permet de faire très facilement des tableaux croisés dynamiques avec Python. Et donc, pour finir la phrase qu'ils ont sur leur website, parce que vous avez remarqué que j'ai commencé leur phrase trois fois d'affilée, mais que je ne l'ai pas finie, ce sont des gens qui viennent d'Excel, qui ont découvert Python, qui ont adoré Python, qui l'ont trouvé surpuissant, mais qu'ils ont vite compris que quand tout le monde n'a pas un niveau de fou en Python, et si on n'a pas un niveau de fou, on se laisse rapidement submerger par 10 lignes de code, où on fait les choses à l'envers, où on les fait mal, et un vrai développeur Python, il arrivera devant la chose, et il se dira, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Et typiquement, quand on navigue un peu dans le monde de la data science, on voit que y a beaucoup de gens de Harvard, du MIT, de Stanford, de Polytechnique, et tous ces gens-là, ils sont super forts en stats, en maths, tout ça, mais ils ont un niveau beginner, 2 mois de Python, quoi. Donc, l'idée de NAS, c'est vraiment de donner une accessibilité aux data à tout le monde. C'est tout le monde, ça peut être les alumnes, les étudiants ou les alumni de ces grandes écoles, ou ça peut être n'importe qui. Et en fait, c'est beau les vocations, hein, comme Claude Mercato, voilà, on a un but, on peut faire progresser l'humanité, donner de la data, de la transparence, mais il faut des outils pour faire ça. Et eux, leurs outils, ils en ont fait pas mal. Déjà, ils ont leur produit NAS, que vous pouvez utiliser dans le produit, ou vous pouvez le hoster vous-même. Ça dépend de est-ce que vous voulez perdre votre temps à mettre en place votre métier ou est-ce que vous voulez faire votre métier. Ça dépend que de vous.
Et ils ont fait plein de templates.
Et ils ont fait plein de templates, plein de notebooks au final. Ouais. Ces notebooks en dedans, en fait, c'est vraiment, ils ont simplifié la vie parce que c'est des notebooks pour aller chercher de la data un peu partout ou lancer des actions pour pouvoir collecter ces data. Mmh. Donc, typiquement, moi, je suis passé devant les choses sur LinkedIn parce que j'utilise assez beaucoup LinkedIn. Ils ont des pouvoirs. Accepter la liste d'utilisateurs qui vous demandent en tant que connexion ou récupérer une liste d'utilisateurs qui fait ceci ou qui fait cela. Et donc, et pour faire ça, c'est pas juste, ils ont écrit plein de lignes de commandes avec des requêtes HTTP. Ils ont aussi créé ce qu'ils appellent des drivers. Donc, ils ont un autre repo que le repo des templates. Et d'ailleurs, je crois que je partage mon écran, donc vous pouvez les voir ici. Oui, on a les drivers. Les drivers ici, on a NAS driver. Je continue, hein, j'ai pas le temps que tu mettes les choses en place. Moi, je suis à fond, là, en fait. Et donc les drivers, on a plein de drivers. Ici, c'est un fichier, donc je pense que ce sera dans Tool. Des drivers pour parler un petit peu à tout. Donc on a du Airtable, on a du Bubble, on a du Kani, on a du email, on a du FTP, on a du GitHub. Donc vraiment, des petits programmes. Des petits programmes Python qui ont déjà les fonctions en fait pour lancer tout un tas de choses. Donc au lieu d'écrire 10 lignes de commande, tu vas en écrire une seule pour arriver à ton action.
Ouais, on est un peu à la frontière entre le notebook un peu boring qui permet de faire de la data science et puis le truc cool N8N où tu peux plugger l'input d'un truc dans l'output d'un machin, plutôt l'inverse, l'output dans l'input. Ouais. Ça a l'air bien sympa. Effectivement.
Exactement. L'idée, donc, si on doit récapituler encore une fois, on a d'abord le service d'hosting de notebook. Ensuite, on a l'accessibilité en vous donnant plein d'exemples. Et ensuite, on a encore un pas dans l'accessibilité à dire, on a déjà travaillé pour vous à créer les programmes qui vous permettent de récupérer les datas et de faire des choses très concrètes.
Superbe résumé. Et je
Ouais.
me permets du coup de t'interrompre parce que sinon on va passer la journée et on a largement dépassé
Mais non, on n'a pas
le
dépassé.
temps imparti. Si monsieur,
Eh
même
non,
avec. Mais
pour moi,
si.
on est à 45 minutes,
C'est
même
vrai?
43. Pourquoi? Parce que tu étais en retard. Voilà. Voilà.
Oh, mais non. Tu peux dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai. On a passé 15 minutes à parler dans le vide parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton Go Live, qui est quand même assez gros. Et donc voilà, mea culpa. Voilà. Merci, 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 Anthony.
Toi aussi, tu fais un mea culpa.
Oui, moi je fais un mea culpa. Maxima culpa. Tout ça, ouais. Enfin bon, j'ai fait du latin, tout ça. Bon, bref, c'est pareil. Ce qui nous permet de conclure. Et de te remercier d'ailleurs, monsieur Anthony Monté. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Figurez-vous qu'on retrouve Anthony la semaine prochaine déjà pour un Cloud Jam, un Tech Jam Cloud, mais spécial invité puisqu'on aura les gens de Rising Cloud dans son...
Exactement.
Et on va parler avec Sean. Et on va parler en anglais. Ah oui, ce sera fully en English. Donc, je pense que ça vaut rien que pour ça, ça vaut le coup de venir parce que, autant vous dire que Anthony a un superbe accent. Ça vaut pas l'accent de Miché. Alors, moi, le mien, je suis un beginner, évidemment, rien à voir avec Anthony. Et Sean, on va essayer de le faire parler en français. Donc, je pense que ça risque d'être sympa. Surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est de creuser Rising Cloud qui. Si je me rappelle bien, c'est un provider, un cloud provider, mais spécialisé functions, serverless uniquement, c'est ça?
Exactement. Exactement.
Voilà. Donc on te retrouve vendredi, exceptionnellement, ce sera un vendredi à 14h. Et pourtant, on aura aussi un tech jam, mais cette fois-ci productivité, le jeudi à 13h avec Jérôme Blin. Notre ch'ti brésilien, notre brésilien ch'ti. Merci beaucoup de nous avoir vus, regardés, écoutés. Et à la semaine prochaine. Au revoir.
Ciao!
Ciao!